SMD, ce dimanche, présenté par Fabien Gazot, bonjour.
Bonjour Patrice, bonjour à tous. Au sommaire de cette émission en football, on s'intéresse au très bon début de saison des Bressuirais en R2. Leur coach Frédéric Cogny est avec nous en studio ce matin. En basket, on revient sur la défaite de Cholet face à Nanterre vendredi soir, la troisième de suite. En championnat, en handball, Laurent Gramont est notre deuxième invité au lendemain de la victoire de l'entente Niort-Aglo au RAC aux Racines de Nantes. En tennis, le TC Bressuire a débuté son championnat par une défaite à Boulogne-Billancourt hier 5-1. Il reste 4 matchs aux joueurs du capitaine Nicolas de Wilder et dès mercredi à domicile face à Quimperlé. En squash, Grégory Diguet a rencontré Baptiste Mazzotti. Le Niortais d'origine est l'un des meilleurs joueurs mondiaux. Il était de passage hier chez lui à l'occasion du tournoi international de la Venise Verte. En course à pied, entretien avec Philippe Soulard, le président de la commission départementale Renigne. Et puis au cœur de cette émission, nous évoquerons aussi la soirée de clôture pour le projet de Cap sans peur du handicap qui a dépassé toutes les espérances.
Sport Matin dimanche avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
En football, c'est donc un week-end de Coupe de France où les deux Sévriens malheureusement brillent par leur absence. Les Herbiers se sont qualifiés à Orvault. Fontenay-le-Comte a éliminé Chamalières. Ça s'arrête là en revanche pour Chalon et pour la valeureuse équipe d'Aisnay. R1 battu par 3, leader de Ligue 2 hier après-midi. 3-0. À noter que Trélissac qui survole la R1 dans la poule des deux Sévriens cette saison a été battu par Pau. Une Ligue 2 sur le score de 2-0. En Régional 1, Pays de la Loire, sachez que Pouzauges a battu Le Mans-Villaret 2-0. La poule C de R2 avec ce match entre Niort-Saint-Florent et Le Bouscat hier soir. Le Bouscat est venu s'imposer à René Gaillard 1-0. Les joueurs de David Moreau ont donc cédé face au leader. Écoutez sa réaction.
C'était une très bonne équipe en face, donc fallait être prudent. On ne pouvait pas partir un peu la fleur au fusil d'entrée, parce que c'est une équipe, bon, bah, c'est les équipes les plus fortes de la poule. Hein, voilà, on savait qu'ils ont des bonnes ambitions. Donc voilà. Après, c'est un match en première mi-temps très équilibré, j'ai trouvé, où techniquement ça a bien joué, il y a eu des bonnes choses. Mais peut-être que ce qui a manqué dans les deux équipes, mais un peu de profondeur, un peu de percussion. Je pense qu'on aurait dû se projeter un peu plus, aller vers l'avant. Chose qu'on n'a pas réussi à faire, notamment en première mi-temps, c'est ce qu'on a dit un peu aux garçons. Et on était en place, mais peut-être avoir un peu plus d'agressivité dans le premier rideau pour récupérer le ballon un peu plus haut. On n'a pas été en danger. Et la deuxième mi-temps, on a cherché un peu d'aller un peu plus haut, essayer de les provoquer un peu plus, et on n'a pas réussi à le faire. Et puis après, c'est un ballon anodin, on voit pas trop sur le porteur, et le mec fait une superbe frappe. On perd aujourd'hui sur un talent individuel, un mec a fait un geste, le seul mec a fait un geste sur les 22 joueurs que les autres n'ont pas fait. Voilà, lui il l'a fait, il fixe, il fait une superbe frappe, va dans un espace pas possible, ras du poteau, on perd sur un talent individuel. Alors bien sûr, j'aurais aimé que ce soit un des joueurs qui fasse ce genre de geste, et ça n'a pas été le cas.
Et ce talent, c'est Nakayama, auteur de ce but pour le Bouscat. À la 65e minute. Cet après-midi, Saint-Liguerre joue sur le terrain de l'Étoile Maritime. Ça joue également en R3 dans la poule A pour le SC Toircey face à Agnols-sur-Mer. On est donc sur des matchs en retard dans ces championnats régionaux. En Régional 2 féminine, maintenant, cet après-midi, Bressuire reçoit Saint-Junien et le coach des Bressuirais est avec nous en studio pour évoquer notamment ce match. Bonjour Frédéric Cogny.
Bonjour Fabien, merci à toi pour l'invitation.
Alors, merci d'être venu en studio. C'est un très bon début de saison, hein, puisque les Bressuirais pointent à la première place. Tu nous le disais juste avant, on va se tutoyer, c'est plus sympa. Tu nous le disais, c'est pas l'objectif hein, d'être en fin de saison, en tout cas à cette première place, car vous êtes promu en R2.
C'est exactement ça, c'est une équipe qui est en reconstruction cette année. On a récupéré pas mal d'anciennes joueuses. Faut pas oublier qu'elle monte de D1 suite à un beau travail de Manu la saison dernière. Donc c'est vraiment une année d'apprentissage, et de construction pour les filles. Donc on est là pour apprendre toutes les bases et pour amener l'équipe à performer au meilleur possible.
Alors Manu Akpalo Gnavor hein, que l'on salue d'ailleurs, qui a dû laisser sa place en septembre. Mais tu as repris la suite puisque tu diriges à Bressuire le pôle féminin, donc il était assez naturel que ce soit toi qui pallie cette absence.
Oui, c'est exactement ça. Manu a dû s'absenter suite à des soucis de santé. Donc moi, en tant que responsable du pôle féminin, je suis toutes les générations féminines. Donc pour moi, pour ma part, ça m'est semblé essentiel de porter le club et d'aider le club à performer à ce niveau-là.
Donc cette équipe, tu l'as dit, il y a des retours, ça veut dire qu'il y a, plutôt des jeunes joueuses et puis aussi des joueuses beaucoup plus expérimentées.
On a un effectif avec un âge assez hétérogène, on va de 17 ans jusqu'à 51 ans.
Oui, effectivement, donc il faut créer l'osmose. Hein.
C'est ça, mais c'est pour ça qu'on a pu créer cette équipe aussi foot à 8, afin de permettre de faire jouer tout le monde surtout et d'apporter une certaine concurrence, une concurrence saine. Et de permettre aussi d'avoir du quantitatif aux entraînements, donc ce qui nous permet de progresser dans les meilleures conditions possibles.
Donc ça va très bien en championnat. En Coupe de France, ça s'est arrêté face à Bergerac, défaite 4-1. Et Bergerac, c'est une R1, ça montre qu'aller voir plus haut, c'est peut-être un peu ambitieux pour l'instant.
Ça serait ambitieux pour le moment, mais après c'est pour ça qu'on compte aussi sur les années futures, parce qu'on a de très belles catégories jeunes, que ce soit U18-13, 14-15 ou 16-18, qui évoluent au niveau régional cette année. Donc on compte sur notre progression aussi par grâce à ces filles-là, pardon.
Donc ça veut dire vraiment que le foot féminin, alors à Bressuire comme ailleurs, il se structure, hein, vraiment.
C'est dans l'objectif, ça fait 3 ans que les éducateurs sont en place, donc on essaye d'avoir une continuité et d'apporter et de faire performer les filles dans les meilleures conditions afin qu'elles progressent au maximum possible.
Et puis alors il commence à y avoir des exemples, on pense à Fiona Liègre qui est passée par l'UFCB, qui joue aujourd'hui au Paris FC, qui rencontre les meilleures équipes d'Europe, hein, joue en Ligue des Champions. Mmh. C'est bien quand on est éducateur, comme tu l'es, d'avoir aussi quelques exemples parfois à donner aux jeunes joueuses où on est loin de tout ça finalement.
Ça les fait toujours rêver, donc ça donne aux filles l'envie de jouer, l'envie de progresser. Après c'est pas une fin en soi, Fiona a joué chez nous, mais a joué qu'avec les garçons. Donc c'est aussi pour ça qu'elle performe autant maintenant.
Alors, cet après-midi, le match de Saint-Junien. Saint-Junien, c'est plutôt fin de tableau. Donc, a priori, vous êtes favori, mais rien n'est acquis, évidemment.
Dans cette poule, tout le monde peut battre tout le monde. Donc, il faut se méfier de toutes les équipes. Donc, c'est pour ça que les points qu'on a après à l'heure actuelle sont pris. Donc, c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça si on continue à performer. Et pourquoi pas viser l'autre tableau, comme dit au début de l'émission, sans pour autant chercher à monter cette année. Faudrait être sérieuse et appliquée sur cette rencontre.
Alors, on va souhaiter un bon match à Frédéric et ses joueuses. Et puis, on se rappelle ce soir dans l'émission de 18h pour faire le point sur tous les résultats du week-end. On verra ce qu'il en est pour ce Bressuire Saint-Junien. Coup d'envoi à 15h.
Ouais, c'est ça, à Chambrouté.
À Chambrouté.
Oui.
Donc, cet après-midi pour cette R2 féminine dans la poule A, le troisième tour de la Coupe des Deux-Sèvres également en football. On retourne chez les hommes avec déjà quelques rencontres qui se sont jouées. Le Pays de Loing s'est imposé à Bussleur-Tireuil 5-1. Gatifoot s'est imposé à Limalonge 4-1. Thouars a battu le Pays Tenzéen 3-1. Amayou s'en est tiré au tir au but pour éliminer Coulonge. Thouars 7, 3-3 et 6-5 au tir au but. Le Pays Argentonais se qualifie à Châtillon 3-0. Et Niort-Souché a fait un nul contre le Pays Néo-Crèchois. C'est le Pays Néo-Crèchois qui s'est imposé au tir au but. Cet après-midi à l'affiche, les Mahorais reçoivent Saint-Aubin-le-Clou et Gondigné contre Cherveux, les Portugais de Niort contre Chandonnier-Pamply, Assay, Nueil-Aubier, Beauvoir sur Niort, Avenir 79, Bessine à SPTT, Niort-Saint-Florent, Brulin, Selverine, Exireuil, Niort-Saint-Liguerre, Font-Permé-Nigoude contre Saint-Martin-les-Mels, Inter-Bocage contre Maucoutan, Lezay face à Choret, Mauzé-Rignier contre Parthenay-Viennet, Pamprou face à Effre, Fort-Praec, Saint-Sauveur, la réserve contre le SCA, l'MC, Val-de-Sèvre, Union, Sud-de-Sèvre, Voulmentin, Saint-Aubin, Savaran, Pierre-Jet. Tous ces matchs débutent à 14h30, attention à l'horaire. On est en heure d'hiver et pour la Coupe, ça commence un peu plus tôt. La rencontre entre les Portugais de Cerizay et FC Otis ne se jouera pas aujourd'hui car le club cerizéen a été exclu de toute compétition par le district. En attendant, à la fin de l'enquête, suite à des incidents qui se sont produits dimanche dernier face au Pays Tenzéen, le Courrier de l'Ouest revient ce matin sur ce qui s'est passé à lire non pas en page sport mais dans la page faits divers. Le deuxième tour de la Coupe Saboureau également ce week-end avec déjà quelques qualifiés. Hervaux Saint-Jouin a battu Fénoir-Terre 6-4, FC Boutonnais contre le Pays Mexantais 2-1 pour le FC Boutonnais et Saint-Romand-les-Mènes se qualifie au détriment d'OGAZ après la séance de tir au but. Les autres rencontres ont lieu cet après-midi. Frédéric, j'imagine que tu suis aussi le football masculin. D'ailleurs, tu coaches les U17 régionaux, mais on n'en parle pas aujourd'hui parce que ça s'est mal passé ce week-end. Mais le foot masculin n'est jamais loin. J'imagine que tu suis tout ça.
Oui, Effectivement, enfin moi les filles là, c'est la première année que je coach les seniors féminines. Bah avant tout, je suis un éducateur aussi masculin. Donc là sur les catégories jeunes, donc cette année oui, le U17 régional 1 du FC Bressuire.
Alors avec un FCB dont c'est le renouveau un petit peu hein, cette saison, avec un nouveau coach notamment qui incarne ce renouveau, Damien Charron, tout se passe bien, vous travaillez sans doute aussi en collaboration un peu?
Oui, on se côtoie tous les jours au clubhouse.
Eh bien merci Frédéric d'être passé à nous voir ce matin.
Ben, merci à vous pour l'accueil et de nous permettre de mettre le football féminin en avant.
Eh bien c'est avec plaisir et rendez-vous ce soir avec, on l'espère, une victoire au compteur.
On l'espère
une
aussi,
nouvelle
merci.
Victoire pour le FCB dans ce championnat de R2, hein, passer au rugby, Patrice.
Sport Matin dimanche avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
Le rugby, juste pour vous indiquer que Niort s'est incliné à Rouen, c'était vendredi soir 19 à 10. À court de solutions, les Niortais s'en sont remis au jeu au pied, qui a manqué de précision. Défaite 19 à 10 donc. Cet après-midi en Fédéral 3, Rochefort partenait à l'affiche en Régional 1. Ré contre Choret, en Pays de la Loire, R2, Thouars joue à Saint-Hilaire, et en R3, Saint-Mexant accueille Saujon. Avant d'attaquer la deuxième partie de SMD, on s'intéresse à la belle aventure de l'association Cap Sans Peur du Handicap, clôturée vendredi soir à la Griotte de Cerisay, un projet intitulé Cap Deal en Deal, qui s'est déroulé du 6 au 12 septembre. Il s'agissait de partir de Bressuire pour rejoindre les îles de Ré, d'Aix et d'Oléron en courant, à vélo, en nageant ou en canoë. La joëlette était également utilisée, car l'équipage était composé de pompiers et de personnes handicapées. Avant de revenir à Bressuire le 12 septembre, des souvenirs plein la tête parmi les participants, Clément Porcher, parasportif, pompier et médecin.
L'aventure humaine avant tout, beaucoup plus que le sport, c'est les rencontres qu'on a fait à la fois dans l'équipe et avec les jeunes de l'IME et avec tous les gens qui nous ont rejoints en fait au fur et à mesure. C'était trop bien.
Ta vision de la vie est différente?
Ouais, ben en fait on a, enfin c'est pas qu'on a l'impression, c'est que je pense que tout est possible. On l'a prouvé dans cette aventure.
Et cette soirée de clôture avec 250 personnes vendredi soir à Cerisay a été l'occasion d'apprécier le très beau documentaire signé Stéphane Marelli. Fred Ouvrard, le coprésident de Cap Sans Peur du Handicap.
Voilà, bah c'était une magnifique soirée. On a eu un très très beau film fait par notre vidéaste, un film de 25 minutes qu'on va pas se lasser de regarder. Et puis après voilà, toute une série de discours et dommages, la remise du matériel adapté qu'on a pu financer. Donc vraiment une très très belle soirée. Ouais.
Et puis au-delà de ce défi sportif avec les paras, c'est aussi d'avoir prolongé avec des dons de matériel. Ça, vous avez été, ça a dépassé, c'est au-delà des espérances.
Ah oui, là c'est incroyable. On avait déjà été estomaqué il y a deux ans d'avoir pu récolter 35 000 euros. Et là, on a presque doublé. Donc voilà, on a eu plus de 60 000 euros. Donc on a pu, au départ, on devait juste offrir la goélette. Et en fait, on a pu offrir plein de matériel. Donc un basket fauteuil, un handbike, faire un don assez conséquent au comité handisport. Et également financer un mur interactif pour les IME.
Les fonds récoltés ont dépassé donc les espérances et ont permis d'aider ceux qui œuvrent dans le milieu du handicap, à l'image de Julie Favrelière, éducatrice spécialisée à l'IME de Thouars, qui s'est laissée convaincre par le co-président Eddy Boissineau.
On avait déjà échangé avec Eddy sur le handicap à plusieurs occasions, et quand il est venu me proposer de rejoindre l'aventure, alors il y avait le côté sportif, côté pompier, parce que je suis sapeur-pompier volontaire à côté sur Argentonnet, et l'idée de pouvoir allier mon quotidien professionnel avec la passion pompier et la passion du sport, et bien du coup ça a matché.
Et en plus l'ADAPI va pouvoir avoir un mur numérique interactif, là c'est un truc hyper intéressant.
Alors effectivement l'ADAPI a cette volonté de développer le sport et le sport santé, et donc l'acquisition du mur interactif, c'est l'occasion d'apporter un côté ludique en plus et un côté innovant qu'on n'a pas forcément. Donc là le mur, il va pouvoir naviguer d'IME en IME, et du coup les jeunes vont pouvoir vraiment s'amuser tout en apprenant et en se mettant en mouvement. Donc ça, c'est vraiment important.
Voilà, propos recueillis par Vincent Nori vendredi lors de cette soirée de clôture d'un projet qui en appelle d'autres sans doute pour Cap Sans Peur du Handicap.
Sport Matin dimanche avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
Merci de votre fidélité à Colline Radio. La suite, deuxième partie de Sport Matin Dimanche. On retrouve Fabien Gazot.
Et au sommaire de cette deuxième partie, Patrice, on va parler handball avec Laurent Gramont, notre deuxième invité au lendemain de la victoire de l'Entente Niort-Aglo au Racing de Nantes. En basket, on revient sur la défaite de Cholet face à Nanterre, la troisième de suite en championnat. En tennis, le TC Bressuire a débuté son championnat par une défaite à Boulogne-Billancourt hier 5-1. On parlera squash ensuite, puisque Grégory Diguet a rencontré Baptiste Mazzotti, le Niortais d'origine et l'un des meilleurs joueurs du monde. En course à pied, enfin, entretien avec Philippe Soulard, le président de la commission départementale Running.
Sport Matin Dimanche avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
Le handball et une nouvelle victoire pour les Celloises en National 1 face à Chambray hier soir. 39-29 en N2, la réserve celloise s'est imposée face à Bègles 18-16. Et puis au Nice, La Rochelle n'a laissé aucune chance à Montcoutant, 38-18. Large score également en N2 masculine pour Pouzauges qui bat Tardé 41-21. La Nationale 3 masculine et la victoire de l'Entente Niort-Aglo hier soir sur le parquet du RAC de Nantes, le Racing de Nantes. 34-35. Bonjour Laurent Gramont.
Bonjour.
Alors vous êtes l'entraîneur de l'Entente Niort-Aglo. Au bout du suspense hein, hier soir, en tout cas c'est ce que laisse apparaître le score.
Oui, on gagne d'un but, mais on menait de 3-4 buts à 3 minutes de la fin. Donc c'est pas un hold-up. Hein. On était devant à 80% du match avec plus de 3-4 buts à chaque fois.
Donc vous avez quand même tremblé un peu sur la fin ou vous étiez serein?
Non, on n'a pas tremblé puisqu'ils marquent ils reviennent juste à un but à la dernière seconde, donc on a su gérer tranquillement les deux trois dernières minutes sans trop de problème.
Alors vous êtes bien calé hein, dans ce championnat de N3 à la 6e place, c'est plutôt satisfaisant hein, j'imagine, puisque je le rappelle, vous êtes promu hein, dans ce championnat.
Oui, effectivement, on est promu. Oui, c'est satisfaisant. Bon, on est sixième, mais on est à un point des troisièmes. Je viens de regarder le classement. Donc, on va dire qu'on est dans la partie haute du classement. Il commence à y avoir un petit trou quand même de 5-6 points sur les premiers relégables. Donc, on va continuer à travailler avec sérénité et en lorgnant un petit peu quand même sur le haut du classement.
Ouais, vous regardez plutôt vers le haut que vers le bas. Le maintien est largement dans vos cordes cette saison.
J'ai pas dit qu'on ne regardait pas vers le bas. J'ai dit on peut, pour l'instant, on a un petit matelas, donc on travaille sereinement. On jette quand même un œil sur les résultats des adversaires en dessous, mais on va essayer quand même de faire un petit peu plus de coups à l'extérieur contre les grosses équipes, comme on a pu le faire contre Poitiers à domicile.
Vous aviez conservé à peu près la même ossature cette saison que la saison dernière. Il y avait eu du renfort. Comment ça s'est passé l'intersaison?
C'est à peu près la même ossature, mais avec les renforts du club, on joue avec 3 moins de 18 de Niort-Aglo et qui peuvent jouer encore cette année en moins de 18. Donc c'est surtout grâce à la formation de Niort-Aglo et qu'on a une recrue d'un joueur de Saintes.
Alors c'est le projet du club que de lancer des jeunes comme ça?
Le projet du club, oui, c'est basé sur la formation des jeunes de Niort. Alors, en essayant d'aller monter vers la Nationale 2, vers la Nationale 1, mais avec une très très grosse ossature du bassin niortais.
Merci Laurent Gramont, coach de l'Entente Niort-Aglo, d'avoir été en direct avec nous ce matin. Merci à vous et bonne journée au lendemain de cette victoire hein, à Nantes, 34-35 dans ce championnat de National 3. Un mot de volet, sachez qu'en National 2 féminine, les Pexinoises jouent cet après-midi à Mérignac. En N2 masculine, les Pexinois, eux, reçoivent cet après-midi la JSA Bordeaux. On passe au basket. Cholet battu par Nanterre vendredi soir 76-78 à la mi-temps. Rien ne laissait présager une telle issue puisque les Choletais avaient 15 points d'avance, mais ils se sont écroulés dans le troisième quart-temps en 13-29. Troisième défaite de suite en championnat, mais Fabrice Lefrançois n'était pas catastrophé en conférence de presse après la rencontre.
J'ai beaucoup aimé notre énergie globalement sur, on va dire, 90% du match. Mais il a manqué ses 10% en termes de deuxième mi-temps où
où t'es à plat, t'es pas agressif, tu les laisses reprendre confiance. On était vraiment dans notre plan toute la première mi-temps. Et voilà, on s'est arrêté pendant 3-4 minutes. Et derrière, t'es sanctionné. Il faut féliciter cette équipe de Nanterre d'avoir combattu, d'avoir proposé cette opposition ce soir. Après, ils ont pris confiance, ils ont mis des tirs extérieurs, des tirs très difficiles, des tirs contestés. Ils ont un pourcentage de lancers francs qu'ils n'ont jamais eu. Il y a des joueurs qu'on peut-être joué avec un peu plus de confiance que les nôtres. Donc voilà, mais j'ai trouvé quand même nos gars valeureux.
On l'a dit plus tôt, hein, c'est la troisième défaite d'affilée pour CB en championnat. Et c'est la première fois que ça arrive depuis que Fabrice Lefrançois a pris les commandes. Mais là aussi, le coach relativise.
On perd Le Mans et ce soir Nanterre, qui sont des top teams de la division. On perd à Nancy où effectivement on a produit un jeu nettement moins bon que ce qu'on a fait ce soir. Mais entre temps on a quand même gagné en Coupe d'Europe à l'extérieur. Mais voilà, on sait que ce championnat est très homogène. On sait que c'est difficile tous les week-ends. Et on sait que Nanterre fait partie des très 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 belles équipes et très bien coachées par Julien. Donc voilà, on est déçus. Mais je suis j'ai une perspective qui est assez, je trouve, positive, dans le sens où on a senti une vraie énergie quoi ce soir.
Et cette intensité chère à Fabrice Lefrançois, Julien Mahé et son équipe de Nanterre savent y faire face. Écoutez ce que disait le coach francilien également au micro de François Larue vendredi soir.
Il y a quand même des équipes qui se dégagent cette saison par rapport à ça. Enfin, depuis l'année dernière déjà pour Cholet, Chalon également, et Paris, et puis un petit peu Le Mans aussi. Ce sont des équipes qui dégagent une intensité de folie. Donc on sait qu'on va perdre des ballons parce qu'ils vont provoquer des pertes de balles. Mais on sait aussi que c'est quelque chose qui est très très énergivore. Et maintenant, bon, là on a aussi gagné à Chalon et on a aussi perdu beaucoup de ballons là-bas. Par contre, le point commun de ces deux matchs, c'est le rebond. Voilà. Et Cholet, une équipe très forte au rebond, mais ce soir on a dominé le rebond et ça, pour moi c'est décisif.
Un prochain match en championnat pour les Choletais samedi prochain à Saint-Quentin. Mais avant cela, la réception de Bursaspor en Coupe d'Europe ce mercredi à 20h et ce sera à suivre sur Colline. En National 1 féminine, Chorey s'est incliné au Poinçonnet hier soir 81 à 62. En National 2 masculine, la Esnior battue par l'ES Montgaillard 76-77. Défaite frustrante après une prestation convaincante face au leader du championnat. En pré-national féminine, Bressuire accueille Brive cet après-midi. En R2 féminine, le Pays Argentonais s'est incliné face à la réserve du Stade Rochelet 44 à 69. En R3 féminine, lourdement battu le BC Cerisien à Neuville 73 à 39. Également lourdement battu Saint-Jean-Bouilletoire à Noyer 82 à 34. Cet après-midi, Partenay accueille Étré. En R3 masculine, maintenant, la Chapelle Saint-Laurent a battu la Rochelle Tadon à 79 à 53. Bressuire s'est imposé à Neuville 79 à 62. Et cet après-midi, Effre accueille Marcilly.
Sport Matin dimanche avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
Merci de votre fidélité à Colline la radio. La suite de Sport Matin dimanche, on retrouve Fabien Gazot.
Le tennis club de Bressuire a débuté sa saison hier à Boulogne-Billancourt par une lourde défaite 5-1. Seul Enrico Dalla Valle a remporté un point en simple. Il va falloir vite se ressaisir. La prochaine rencontre étant la réception mercredi 19 de Quimperlé. Une autre rencontre sera disputée à domicile face à Boulogne-sur-Mer. Avant cela, deux déplacements attendent l'équipe du capitaine Nicolas De Wilder à Annecy-le-Vieux et Saint-Amand. Dans le Nord, l'objectif est de faire du mieux possible en évitant surtout la dernière place, synonyme de descente en Pro B que les Bressuirais n'ont plus connue depuis 2019. Nicolas De Wilder.
Les premières rencontres du championnat vont être quand même primordiales pour se positionner dans les meilleures équipes. Voilà, c'est un championnat qui est tout le temps très serré, ça se joue à pas grand chose, donc l'objectif c'est quand même déjà le maintien, et puis après on peut voir ce qui se passe pour la suite.
À chaque journée, on peut avoir des surprises en fonction des disponibilités de chacun, donc on sait jamais vraiment exactement où l'on va, même si on peut peut-être parler quand même de favoris pour certaines équipes.
Oui, c'est exactement ça. On a une liste de joueurs sur le papier. Après, faut faire un petit peu avec la programmation de chacun. Donc, c'est vrai que à s'organiser un petit peu avant les rencontres, c'est jamais quasiment la même équipe qui vient. On a quand même des piliers qui seront là. Dans les autres équipes, c'est un peu la même chose. Après. Après, pour parler de favoris dans le groupe, je pense que Boulogne-sur-Mer a une grosse équipe, a des ambitions de gagner le championnat. Donc, je pense que ce sera eux les favoris dans le groupe.
Bon, alors, il faudra peut-être être maintenu, en tout cas, avant cette dernière rencontre, puisque Boulogne-sur-Mer, ce sera la dernière rencontre et ce sera à domicile. L'occasion, comme on l'a dit, de voir du très haut niveau des joueurs renommés. Pour ce qui vous concerne, vous êtes satisfait de l'effectif cette saison?
Ouais. Après, on a quasiment le même effectif que l'an dernier, avec nos joueurs français qui vont être les piliers du groupe. Voilà, il y aura des joueurs étrangers qui vont faire des apparitions sur quelques matchs. Donc non, je crois que les joueurs ont envie de faire de belles choses. Donc voilà, il y a une bonne ambiance, il y a un beau groupe, il y a une belle émulation. Donc c'est ça qui est sympa.
Alors sur les joueurs français, on peut évoquer donc Maé Mali, Alexis Gauthier notamment.
Oui, il y a Mathis Erard aussi. Il y a un nouveau qui s'appelle Kenny De Schepper. C'est des joueurs qui se connaissent aussi bien, ils voient quand même toute l'année, donc ils ont aussi envie de bien faire les choses et puis de donner le maximum.
Oui, alors c'est important justement cet état d'esprit, puisque ce sont des joueurs qui ont la licence du TCB, mais qui finalement se voient assez peu. Donc il faut créer une cohésion très rapide pendant cette quinzaine de jours.
Oui, c'est ça, c'est vrai que ils se voient quand même toute l'année sur différents tournois, mais ils passent pas toutes les semaines ensemble. Donc après quand ils se voient, ils ont le même maillot évidemment ils supportent les uns aux autres, donc c'est ça qui est agréable.
Agréable comme l'est aussi la nouvelle salle Alkena, à la surface moins rapide que dans le vétuste complexe appartenant aujourd'hui au passé. Le futur proche chez Quimperlé, donc mercredi à partir de 13h pour le TC Bressuire. On garde une raquette en main, mais on change de format avec le squash. Le club de Niort organisait l'Open International de la Venise Verte et c'est le Malaisien Sanjay Jiva qui a remporté hier cette 10e édition. La tête de série numéro 3 a battu en finale l'Anglais Ben Smith. Écoutez Jean-Michel Mazzotti, le président du club.
On a eu un beau plateau, encore une fois. De très beaux quarts de finale, des deux très belles demi-finales, avec notamment la première demi-finale qui était vraiment entre la tête de série 1 et la tête de série 3, qui a duré 72 ou 73 minutes. Je crois qu'il y a eu 11-9 au cinquième jeu pour Sanjay, donc face à Patrick Rooney qui est la tête de série 1. Ça s'est joué sur 4 jeux, ça s'est joué à quelques balles vraiment, et bon, mais ça a tourné pour Sanjay. Et on a vu quand même que la partie du tableau était vraiment très très forte, la partie basse était très excellente aussi, mais on a bien vu sur la finale, alors que Ben Smith avait moins joué hier, il y a une victoire de Sanjay en 3 jeux. Donc bon plateau, des joueurs avec une super mentalité, et puis toujours du public, on a toujours du public, et puis bon, on a eu une cérémonie sympa parce que il y avait les précurseurs du squash à Niort. Mon fils qui devait pas être là, qui est là, qui fait la remise. Bon voilà, donc on peut être content, satisfait de cette 10e édition.
Et le fils de Jean-Michel Mazzotti, c'est Baptiste, l'un des meilleurs joueurs du monde, qui a fait le point sur sa carrière au micro-colline de Grégory Diguet.
J'étais en Chine la semaine dernière, je devais rentrer à Prague là, sur mon lieu d'entraînement, et puis comme j'ai perdu un match 3-2, j'étais très très frustré contre Mohamed Sherbaghi, qui est une légende du jeu, qui a été champion du monde, numéro 1 mondial et qui est encore dans le top 10, tu vois. Donc j'ai dit bon, je vais rentrer, je savais qu'il y avait le tournoi là et comme ça je peux passer un peu des moments avec ma famille. Donc je suis rentré, j'ai pris le premier avion et je suis arrivé jeudi matin à Paris, et voilà, je suis là et je repars demain là, à Prague m'entraîner. Donc voilà, j'ai fait un bon mois d'octobre et un bon mois de novembre où j'ai fait quart de finale de l'US Open, où j'ai fait quart de finale à San Francisco aussi. Donc j'ai solidifié mon classement pour pouvoir maintenant aller plus haut. Donc là je suis toujours 17 et voilà, on va essayer d'aller de finir l'année dans le top 15, tu vois. Donc ça va être un beau challenge, et puis voilà, enfin, je pars à Hong Kong samedi prochain pour 2 tournois, puis après ça sera la trêve hivernale.
Toujours l'objectif du top 10.
Ouais, après, j'avais dit surtout mon objectif, c'était d'essayer de solidifier mon jeu, d'être beaucoup plus solide, d'avoir des résultats plus constants, d'avoir un fond de jeu qui est plus constant et solide aussi. Donc j'essaie de ça, et depuis le début de la saison, ouais, c'est ce qui se passe, je suis beaucoup plus solide et constant. Donc maintenant, voilà, c'est sûr, j'ai le top 10 dans un coin de la tête, mais je veux pas oublier que pour être top 10, il faut que je fasse augmenter mon niveau de jeu d'abord, et ça viendra naturellement après, et avec le travail. Donc le top 10, c'est juste un résultat de ce que je produis tous les jours et de ma constance, quoi. Mon niveau de jeu, il est plus fort maintenant que quand j'étais 13 mondial en 2024. Donc
le circuit est plus fort aussi.
Le circuit est beaucoup plus fort aujourd'hui. Pour battre des mecs avant, pour battre des mecs qui étaient 30, 40 mondiaux, bah, c'était assez facile. Et maintenant, les mecs, ils s'arrachent tous, ils sont tous forts physiquement, ils arrivent tous avec des plans de jeu. Et bah, c'est ça qui est excitant aussi, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un match qui est facile, que ce soit dans. Même si demain tu viens jouer ce tournoi-là, tu sais que pour le gagner, tu vas devoir quand même être sérieux, quoi. Sinon, tu peux passer à la trappe. Donc ça rend le job encore plus dur, mais c'est top parce qu'au moins ça le professionnalise un peu plus. Et voilà, l'objectif de top 10, ça a toujours été mon objectif de ma vie. Donc l'objectif de ma vie, c'était top 20, donc c'est déjà fait. Mais maintenant, voilà, bien sûr, on essaie d'être top 10, mais comme je t'ai dit, je préfère me focaliser d'abord sur augmenter mon niveau, être plus constant sur toute l'année, et je sais que ça viendra ensemble.
Baptiste Mazzotti de passage à Niort hier à la salle de squash avec la remise des prix pour l'Open International de la Venise Verte.
Sport Matin dimanche avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
La course à pied pour refermer ce sport matin dimanche, la course à pied où la saison ne s'arrête jamais vraiment, on l'a vu récemment avec le trail du Val-de-Scie à Noël-les-Aubiers, les inscriptions pour les bosses de Saint-Paul qui auront lieu en décembre, les courses nature ont le vent dans le dos. C'est moins vrai pour les courses sur route, mis à part la Coulée Verte qui a réuni 8000 coureurs en octobre à Niort, quasiment chaque week-end. Des courses sont organisées un peu partout sur le département et alentour. En Deux-Sèvres, la commission départementale Renigne aide les organisateurs et veille à la cohérence du calendrier. Elle centralise aussi toutes les infos et tous les résultats sur le site Renigne 79. Le bassiste Philippe Soulard a pris la succession du regretté Mousse Nakib, qui a beaucoup fait ces dernières années pour fédérer la communauté renine dans le département. Entretien avec Philippe Soulard.
Le rôle d'un président de commission départementale, c'est d'arriver à gérer toutes les courses du département, les crosses, les courses à obstacles, les courses, les trails et les courses sur route. Donc c'est déjà une gestion d'un calendrier. Mon rôle est aussi d'aider toutes les organisations, les nouvelles comme les anciennes, à faire tout ce qu'il y a au niveau administratif. La commission départementale demande une cotisation à l'année qui nous permet d'avoir un parc de matériel qu'on peut ensuite leur prêter et leur mettre à disposition. Ça a été le cas pour un système de chronométrie qu'on avait acheté il y a quelques années avec plus. Et qui maintenant leur permet de chronométrer en autonomie leur course. On a tout une panoplie, je dirais, de matériel qu'on peut leur prêter pour organiser au mieux leur manifestation.
Parce qu'il faut savoir que toutes ces courses ont la particularité, alors pour certaines, d'être organisées par des clubs d'athlétisme, mais pas en majorité finalement. Parfois, ce sont des organisations qui sont assez éloignées du monde de l'athlète.
Tout à fait. On a des appels, on a des comités des fêtes, on a des clubs de foot, on a, oui, comme vous dites, toute une panoplie d'organisateurs qui ne sont pas affiliés à la Fédération Française d'Athlétisme. On a 12 clubs, enfin maintenant un petit peu moins dans le département. La plupart de ces clubs organisent une course à l'année, mais ce n'est pas la majorité. Le trail prend une ampleur incroyable. Il y a aussi il y a eu le développement à une époque des trails urbains qui aussi prennent beaucoup d'ampleur, mais qui deviennent principalement des courses sans classement. Pour en revenir sur les courses sur route, aujourd'hui, il est vrai qu'il y a de moins en moins de coureurs sur les courses sur route. Chez nous, à part la Coulée Verte et Magnier, qui sont deux gros événements dans le département.
Ça s'est décalé, on l'a dit, vers le trail. Alors le trail, à l'origine, les coureurs regardaient assez peu le chrono, il y avait cet esprit un peu plus aventurier. Désormais, ceux qui s'alignent sur le trail sont assez à cheval sur le chrono, le matériel, tout ce qui s'ensuit, il y a un peu plus de... Ça s'est décalé, finalement, tout ça.
Oui, c'est sûr, parce que malgré tout, on récupère quand même des compétiteurs sur les trails. Et puis il y a aussi peut-être aussi un phénomène qui, à l'époque, il n'y avait pas de championnat de France de trail. Maintenant, on a des championnats de France de trail qui fait que on arrive quand même à attirer quelques coureurs. Bon. Chez nous, on n'a pas des terrains qui sont propices non plus à faire des, entre guillemets, du vrai trail, hein, puisque on a des, j'appelle plutôt toutes nos organisations des courses plutôt nature que des trails. Après, on a quelques-uns quand même dans le département qui peuvent prétendre peut-être un label trail, je dirais. Mais voilà.
Il y a quoi ? Il y a les Bosses de Saint-Paul, il y a le trail du Val des Grès notamment.
Voilà. Ensuite, il y a l'Argentonais qui a été une nouvelle course cette année, qui a un parcours qui est assez sympa et qui. Enfin, la différence entre un trail et une course sur route, c'est que c'est une différence de. Il faut qu'il y ait moins de 25% de bitume sur le parcours.
Alors, autre paradoxe ou autre phénomène, alors les trails font le plein, les dossards s'arrachent. Par contre, il n'y a pas grand monde sur les lignes de départ des crosses. Comment on explique ça?
Alors, on rentre dans un domaine qui est encore plus compliqué pour moi, parce que le cross, c'est beaucoup plus dur physiquement que les trails. Hein. On a eu des championnats de France qui ont été pour moi trop simples, puisque on courait sur des hippodromes où on était plus de la course sur la course nature du trail, hein, que du cross pour moi. Avec les difficultés qu'on pouvait rencontrer, c'était quelques bosses. Voilà, on pouvait même arroser un peu les terrains pour que ça devienne un peu plus grand. Mais bon, il y avait rien de naturel. Après, on est rentré dans un phénomène qui a été tout l'inverse. C'était à l'organisateur qui allait faire le parcours le plus dur. Donc, arriver à faire la part des choses entre ceux qui veulent que ce soit compliqué et ceux qui veulent que ce soit pas trop compliqué, bon, on n'y arrivera jamais. Mais bon. Après, les gens sont beaucoup moins attirés sur ces crosses-là, en partie, pour moi, parce que la plupart des crosses sont réservées aux licenciés. Et les pelotons, nos pelotons de course, que ce soit sur route ou sur trail, sont beaucoup plus importants en non-licenciés qu'en licenciés.
Philippe Soulard, président de la commission départementale Renigne, enregistrement effectué juste avant l'annonce concernant le PPS, le parcours de prévention santé, s'appellera désormais le pass prévention santé, deviendra surtout payant à partir de janvier 2026. La Fédération française d'athlétisme a annoncé cette décision ce vendredi après un comité directeur exceptionnel. Le PPS coûtera 5 euros et sera valable un an. Si nous avions eu l'info, nous aurions bien sûr interrogé Philippe Soulard sur ce sujet. Mais il y avait déjà pas mal de choses à dire avec le président de la commission départementale. Renigne, voilà Patrice pour ce sport matin dimanche. Merci de m'avoir accompagné pour la technique ce matin et je serai avec David ce soir pour tous les résultats et commentaires du week-end. 18h, 18h30 et 19h03, rendez-vous pour faire le point sur tout ce qui s'est passé ce week-end sur le plan sportif. En attendant de vous retrouver ce soir, je vous souhaite un excellent dimanche.
Merci beaucoup. Sport Matin Dimanche, ce 16 novembre, présenté par Fabien Gazeau. Émission à retrouver dans quelques minutes en podcast sur notre site colline-laradio.fr et puis la redit bien entendu tout à l'heure à 13h. Très bon dimanche avec Colline Radio.
Sport Matin Dimanche avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
Vous rêvez d'une véranda?